ce soir, on va poursuivre notre étude du mouvement salutiste, du réveil salutiste, qui a donc eu lieu en Angleterre au XIXe siècle. Comme on l'a dit la dernière fois, à la base du réveil salutiste se trouve un homme, William Booth. William Booth est né en 1829, le 10 avril, très exactement, près de Nottingham, à une époque où une insurrection, quelques années auparavant, avait éclaté dans cette ville à cause de la misère des ouvriers dont nous avons parlé la dernière fois. Le père de William Booth avait 53 ans quand il est né, sa mère en avait 38. Il est vraisemblable que, par son père, il avait du sang juif, ce qui expliquerait un certain nombre de choses d'ailleurs. Son père était veuf et s'était remarié, d'où le fait justement que son père était assez âgé quand il est né. Son père était un maçon qui n'avait pas beaucoup d'instructions et qui était allé d'échec en échec, de telle sorte que William Booth est vraiment né dans les quartiers les plus populaires et les plus misérables donc de l'Angleterre de cette période-là. Et il a pu toucher du doigt et vivre lui-même donc cette misère contre laquelle il allait s'attaquer justement quand il serait ensuite amené à se lever pour le service de Dieu. La famille de William Booth était rattachée à une église méthodiste de voisine, n'est-ce pas ? Bien que ses parents ne soient pas très 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 pieux, mais enfin c'était plutôt des chrétiens sociologiques, mais ils ont envoyé le jeune William Booth suivre des leçons de catéchisme depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, donc il a été amené à suivre le cursus qui se faisait dans cette église méthodiste. En 1843, à l'âge de 14 ans, il a commencé à entrer dans le monde du travail, comme c'était la coutume à cette période-là. On ne poursuivait pas, en général, dans les milieux populaires, ses études au-delà de 14 ans. Et il a été embauché par un prêteur à gages. Et le rêve du jeune William Booth, c'était de se sortir de cette misère et de devenir quelqu'un de riche. Dans ces années 40, qu'il a appelé les Famlik années 40, William Booth a côtoyé les pires misères parce que tous les jours, il voyait des gens misérables, ruinés, qui apportaient leurs derniers biens, des bibelots de famille, des meubles, des montres, les derniers ustensiles de ménage qu'ils avaient chez eux, n'est-ce pas ? Pour avoir un peu d'argent, pour acheter du pain pour leurs enfants, etc., etc. Et il a immédiatement été en contact avec ces situations terribles. Le 23 septembre 1843, son père est mort. Sa mère est restée seule et elle a ouvert un petit commerce de mercerie pour tenter de survivre. William avait 3 sœurs qui faisaient également partie de l'église dans laquelle il avait été baptisé. Et donc, il s'était tourné vers le méthodisme. Et c'était l'époque où le méthodisme était un peu refroidi. C'était plus l'époque de Wesley, n'est-ce pas ? On vivait un petit peu sur le souvenir du passé. De telle sorte que William Booth n'a pas connu une conversion marquante, profonde et bouleversante, n'est-ce pas ? Comme l'ont fait d'autres hommes de Dieu. Mais il avait même des mauvaises fréquentations. Et c'est petit à petit que finalement il s'est rendu compte de son état de péché. Et il s'est rendu compte aussi que quelque chose était en train de se passer en lui à partir du moment où spontanément il a pris des distances vis-à-vis de ses mauvaises fréquentations, ses mauvais camarades qui étaient les siens. Et c'est quelque temps après que il avait, sous l'influence de ses mauvais camarades, commis quelques menus larcins, notamment un porte-crayon qu'il avait volé. Et soudain, sa conscience s'est mise à le travailler profondément au sujet de ce porte-crayon. Et il a été amené à le restituer. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une œuvre de grâce qui était en train de se faire dans sa vie, dans son cœur. Et William Booth était un homme qui ne pouvait pas donner une date précise pour sa conversion, mais qui était un homme véritablement converti. Sa conversion avait été, pourrait-on dire, progressive, n'est-ce pas ? Mais elle n'en avait pas été réelle pour le moins. Et William Booth, quand il a fait cette découverte que soudain il était véritablement transformé, en particulier cette histoire du porte-crayon a été un tournant décisif dans sa vie, où il s'est rendu compte qu'il avait fait ça parce que finalement le Seigneur avait touché son cœur, le Seigneur avait transformé sa vie, quoi. Et alors, une de ses premières décisions, quand il s'est rendu compte de ce qui s'était passé, il avait alors 15 ans, n'est-ce pas? C'est que il s'est placé devant Dieu, il a dit, ben, Seigneur, si tu m'appelles à vivre dans la pauvreté, eh bien, j'accepte la pauvreté. Pour lui, c'était la chose la plus difficile à faire parce qu'il avait tellement souffert de la pauvreté. Comme je disais tout à l'heure, son rêve, c'était de devenir riche. Et pour lui, c'était vraiment un grand, grand sacrifice que d'accepter de vivre dans cette situation de misère qui avait été la sienne jusqu'alors. À partir de sa conversion, donc dès l'âge de 15 ans, il va lire énormément, toutes sortes de choses, des choses sur la Bible, mais aussi toutes sortes de choses. Il se rend compte qu'il a une culture très très primaire et qu'il a besoin de compléter cette culture. C'est un garçon très intelligent. Bien que peu cultivé, n'est-ce pas? Et il va donc se combler ainsi ses lacunes qui sont les siennes. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, il assiste à Nottingham aux réunions qui sont tenues par un pasteur méthodiste américain venu des États-Unis qui s'appelle James Cogley. Et cet homme remarque dans l'assistance. Ce jeune homme, si assidu, si attentif, et à l'issue d'une des réunions, l'évangéliste le prend à part et lui dit, écoute, j'ai la conviction que tu as un appel pour le service de Dieu. C'est un petit peu, une découverte pour William Booth, il ne s'attendait pas tellement à ça, mais bon, il réfléchit à ce que vient de lui dire cet homme, et puis il se dit, bah, après tout, pourquoi pas? Seigneur, si tu me veux à ton service, eh bien, je suis prêt à répondre. Et immédiatement, il se met à évangéliser à la manière méthodiste, c'est-à-dire les réunions de rue, de plein air, etc. Une évangélisation un peu agressive, n'est-ce pas? Très, très, très forte, très convaincue, n'est-ce pas? Et de ce fait, il va entrer en conflit d'une part avec sa mère et ses sœurs, qui se demandent ce qui lui arrive et qui admettent fort bien qu'on puisse être chrétien, qu'on puisse même être engagé comme il l'est, converti, etc. Mais enfin, qu'il faut quand même mesure garder et que là, son engagement dépasse les limites. Et même dans l'église qui est la sienne, qui est une église quelque peu assoupie, il y a aussi une réprobation. Qu'est-ce que c'est que ce prétentieux-là qui se met à vouloir tout révolutionner? Parce que William Booth est jeune, il a, en plus de ça, il gardera toute sa vie un tempérament très très enthousiaste. Et quand il faisait quelque chose, il le faisait à fond, n'est-ce pas? Et automatiquement, là aussi, il se lance à fond dans cette évangélisation de rue. C'est aussi l'époque où il abandonne les idées révolutionnaires. Bien entendu, comme beaucoup de jeunes gens vivant dans la misère, il était très tenté par les idées révolutionnaires, l'attrait de la Révolution française, l'exemple de la Révolution française enflammait les esprits. C'était l'époque où le marxisme commençait aussi à se répandre. Et William Booth n'était pas insensible à ces idéologies, n'est-ce pas? Et là, il se rend compte que l'idéologie révolutionnaire, qu'elle soit marxiste ou non, n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Et il abandonne. Il abandonne ses pensées. Et il veut vivre pleinement l'évangile. Par exemple, il s'abstiendra de travailler le dimanche, ce qui fait que précisément, il va être chassé de son travail pour avoir refusé de travailler le dimanche. Puis finalement, comme son patron se rend compte que c'était un garçon honnête, eh bien son patron vient le rechercher et accepte qu'il ne travaille pas le dimanche. Et finalement, il est à nouveau, au bout d'un temps, le patron fait faillite et William Booth, en automne 1849, se retrouve sans travail. Alors, il va vivre au crochet de sa mère, peut-on dire? Et puis, finalement, il se rend compte que sa mère tire dur et a des sœurs, etc. Et il est complexé, il est culpabilisé de vivre dans cette situation-là. Et au bout d'un an, où il a vécu ainsi, sans rien faire, au chômage, il décide de tenter sa chance et de partir pour Londres. Essayer de trouver un travail, quel qu'il soit à Londres, et puis ne plus être à la charge de sa mère. À Londres, il a sa sœur aînée, Anne, qui s'est mariée avec un commis de magasin qui fait des petites courses, des petits boulots, etc., qui est un irreligieux de première classe, grand buveur, qui plus est. Et finalement, sa sœur est très malheureuse avec cet homme-là. Et finalement, William Booth, qui n'a d'autre pied à terre, qui ne connaît personne d'autre à Londres que sa sœur, débarque un beau matin chez sa sœur. Et là, va vivre aussi d'expédients, comme beaucoup de chômeurs à Londres. Il n'est pas le seul, malheureusement, qui a eu l'idée de venir à Londres. Il a l'idée qu'à Londres, on sera peut-être plus facile de trouver du travail. Et en fin de compte, il se rend compte que c'est guère plus facile de trouver du travail à Londres qu'à Nottingham. Il vit aussi dans la misère la plus noire, vivant d'expédients, de petits boulots, de quelques heures dans la journée qui lui permettent tout juste de subsister. Évidemment, il ne faut pas compter sur sa sœur, il ne faut pas compter sur son beau-frère pour l'aider dans ce domaine-là. C'est là qu'il entend Marx aussi, qui fait des conférences. Qui milite aussi pour une révolution en Angleterre. Et là, de plus en plus, William Booth se rend compte que c'est une idéologie qui est anti-Dieu, qui est contre l'Évangile, à laquelle il ne peut absolument pas souscrire. Finalement, il retrouve un travail dans un établissement de prêt à gages, c'est-à-dire dans ce qui était son ancienne profession. Et qui plus est, son patron fait profession de christianisme. Alors, William Booth est très heureux d'être embauché par lui, jusqu'au moment où il se rend compte que le véritable Dieu de cet homme-là, c'est l'argent. Et que son christianisme n'est qu'un christianisme de façade. Et finalement, les relations commencent à se tendre entre William Booth et son patron, parce que William Booth, lui, veut vraiment marcher avec Dieu à fond. Et c'est alors qu'en décembre 1849, William Booth va faire une nouvelle rencontre avec Dieu. Il est seul dans sa petite chambre, misérable, dans cette période de Noël. Et bien entendu, c'est un moment particulièrement émouvant, période de Noël, et puis quand il se rend compte de toute cette misère qu'il y a autour de lui, la misère qui est la sienne aussi, il est triste, et il passe un moment de dépression, et alors il se tourne vers Dieu, il prie, et soudain, il y a une bénédiction qui vient sur lui, la grâce de Dieu qui descend dans cette chambre, et là, William Booth fait un acte de consécration, il abandonne sa vie tout entière à Dieu, il la dépose sur l'autel, il dit: Seigneur, fais de moi ce que tu veux, je veux que ma vie te soit utile, etc. Et il écrit donc un certain nombre de résolutions qui seront en quelque sorte son mot d'ordre pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort. Il aura d'ailleurs ce papier sur lui constamment, jusqu'à sa mort, c'est pas, qui comprend les résolutions qu'il a écrites noir sur blanc ce fameux soir de décembre 1849, où il a consacré sa vie entièrement au Seigneur. Voilà les résolutions qui sont les siennes. C'est daté du 6 décembre 1849. Il dit ceci: je promets avec l'aide de Dieu, premièrement, que je me lèverai chaque matin assez tôt, au moins 7 heures, moins 20, pour faire ma toilette et consacrer quelques minutes, 5 au minimum, à la prière. C'était pas quelque chose de bien extraordinaire, mais pour lui, c'était beaucoup. Deuxièmement, j'éviterai le plus possible les conversations oiseuses et les bavardages auxquels je me suis coupablement abandonné ces derniers temps. Troisièmement, je m'efforcerai par ma conduite et mon maintien devant le monde, et particulièrement devant mes compagnons de travail, de vivre comme un humble, doux et fervent disciple de l'agneau. Par mes conseils et mes conversations sérieuses, je tâcherai de les amener à penser à leur âme et à leur sort éternel. Quatrièmement, je lirai au moins 4 chapitres de la Bible quotidiennement. Cinquièmement, je travaillerai à resserrer ma communion avec Dieu. Je rechercherai la sainteté et m'abandonnerai pour tous les événements de ma vie à la providence divine. Sixièmement, je lirai ces résolutions chaque jour et pour le moins 2 fois par semaine. Que Dieu m'aide à cultiver en moi l'esprit d'abnégation et à prendre esclave volontaire le joug du Rédempteur du monde. Amen, amen. Voilà donc ce que furent les résolutions de William Booth. Entre-temps, on lui a retiré sa carte de membre de l'Église méthodiste à cause de ses activités jugées intempestives, et William Booth n'en a cure. À Londres, donc, après cette fameuse nuit du 6 décembre, eh bien, il se remet à l'œuvre de plus belle, beaucoup plus encore qu'il ne l'a fait à Nottingham. À cette époque-là, le méthodisme a divergé déjà en plusieurs branches. Il y a eu des querelles internes. Il y a la principale branche qui est ce qu'on appelle l'Église méthodiste wesleyenne. Et puis, il y a un nouveau mouvement minoritaire qui s'est créé depuis peu et qui s'appelle les méthodistes de la nouvelle collection. De la nouvelle connexion, pardon, pas collection, connexion. Deux se sont détachés, ce qu'on appelle les méthodistes primitifs, qui n'ont pas voulu renoncer à l'évangélisation en plein air. Ça a été la raison pour laquelle ils ont été en quelque sorte excommuniés. En 1849, éclate au sein du mouvement méthodiste une crise encore beaucoup plus grave qui va durer jusqu'en 1852 et qui est le problème du ministère des laïcs. Est-ce que les laïcs ont le droit de prêcher, d'intervenir ? Et finalement, 100 000 membres vont se séparer des méthodistes wesleyens et forment un nouveau mouvement qui s'appelle les wesleyens réformés. Voyez-vous, c'est l'éclatement du monde évangélique. Là, on est vraiment dans cette problématique qui sera toujours la plaie du monde évangélique. C'est division pour des questions quand même qui sont, il faut bien le reconnaître, très secondes. La question de plein air ou pas plein air, une raison pour se diviser. Puis alors, c'était des luttes, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Ils s'excommuniaient, ils s'anathémisaient, c'était quelque chose de terrible. Alors, ils forment la Wesleyan Reform Union, et William Booth est très vite écœuré par ces querelles. Lui, il se rend bien compte qu'il n'y a rien de spirituel dans cette situation-là, et il se rend compte que finalement, ces divisions sont le reflet de l'état lamentable des églises, de toutes les églises, et pour lui, cet état lamentable des églises évangéliques devient une très très grave préoccupation. Alors, comme il faut bien se rattacher à quelque chose, il finit par se rattacher aux Wesleyens réformés, puisque les Wesleyens réformés reconnaissent le ministère des laïcs et reconnaissent la possibilité de prêcher en plein air, ce qu'il fait. Et c'est là que, dans cette église des Wesleyens réformés, qu'il rencontre Catherine Mountford, qui est une jeune fille aussi du même tempérament que lui, très, 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 comment dirais-je, convaincu et très, très, très enthousiaste, fonceuse, etc. Et cette jeune fille, au bout de quelque temps, lui dit qu'elle pense qu'il est fait pour la prédication. Et c'est peut-être un petit peu étrange qu'une jeune fille puisse interpeller un garçon de cette manière-là. Mais enfin, Catherine Mountford était une fille qui n'avait pas froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ainsi que le 20 avril 1852, à l'âge de 23 ans, William Booth est reconnu par les réformés wesleyens comme prédicateur. Et il a la charge d'une petite paroisse dans la banlieue de Londres, à Clapham. Le 15 mai, bien entendu, ce qui devait arriver se produit, il se fiance avec Catherine. Catherine, qui est une jeune fille qui a à peu près son âge, et qui, très jeune, a manifesté un zèle pour Dieu très, très, très prononcé. C'est ainsi que, dès l'âge de 12 ans, elle avait créé une société de tempérance pour jeunes, de lutte contre l'ivrognerie, contre la boisson. Elle avait 12 ans, n'est-ce pas ? Alors, au bout de... William Booth commence son ministère dans la paroisse de Clapham, mais immédiatement, il a du succès. Effectivement, sa fiancée ne s'était pas trompée. Il est vraiment fait pour la prédication. Et ce qui fait qu'il provoque des jalousies. Un jeune homme comme ça, n'est-ce pas ? Les anciens sont jaloux de lui, et au bout de 3 mois, eh bien, ils les conduisent. Ils disent qu'ils ne le reconnaissent plus comme leur pasteur. William Booth n'en a cure. Il sait que le Seigneur l'appelle au ministère. Il se met à prêcher dans la rue. Et puis, en mai 1854, puisqu'on ne veut plus lui chez les réformés wesleyens, il se rattache aux méthodistes de la nouvelle connexion. On lui confie un territoire à évangéliser pour le mettre à l'épreuve et s'en acquitte merveilleusement bien. Et c'est alors qu'il se rend compte qu'il faudrait qu'il complète un petit peu sa formation biblique et qu'il a besoin d'étudier un peu. Et il va donc étudier pendant 6 mois à Londres, mais bon, l'école biblique le dégoûte très vite, il a l'impression de perdre son temps, c'est un homme d'action, c'est un homme de terrain, c'est un homme de contact, n'est-ce pas, et il estime qu'au bout de 6 mois, finalement, il a fait le tour du problème, il en sait assez, et il repart évangéliser. Et il va choisir à ce moment-là la banlieue de Londres la pire, quoi, hein, ce qu'on appelle l'East End, c'est-à-dire vraiment la zone, la région la plus défavorisée, où se trouvent les buveurs, les prostituées, les hommes violents, les chômeurs, etc. Et il y va au nom de la Nouvelle Connexion. Il appartient donc à ce mouvement qui approuve le fait qu'ils choisissent d'aller évangéliser cette région vraiment qui en a un besoin énorme. Et très vite, il rencontre un grand succès dans son ministère auprès de ces gens-là. Il sait comment les aborder parce que lui-même, il connaît la misère, il sait ce que c'est que la misère, il sait se mettre à leur portée, il sait parler leur langage, il sait aborder les problèmes qui sont les leurs, et très vite, il devient extrêmement populaire. Il se marie le 16 juin 1855 et le jeune couple part quelques temps en voyage de noces à l'île de Wight. Et puis, de là, il va évangéliser les îles anglo-normandes et puis la région dans laquelle il se trouve. Même en voyage de noces, il ne peut pas s'empêcher de prêcher l'évangile. En 1857, la conférence de Nottingham, de tous les prédicateurs de la Nouvelle Connexion, l'affecte au district de Brighton pour un an, c'est-à-dire dans le sud de l'Angleterre. On l'éloigne de Londres parce qu'on le jalouse, hein, c'est évident. Et le 29 mai de l'année suivante, il est reconnu officiellement au ministère pastoral et consacré. Pendant cette période, 3 enfants lui naissent, une fille aînée, Catherine, qui deviendra la maréchale, Wellington, qui naît le 27 juillet 1857, et puis une troisième fille qui naît quelques temps après. Au bout de quelques temps, la petite chapelle de Brighton, qui est la chapelle méthodiste dont William Booth est le pasteur, devient trop petite, l'auditoire a quadruplé. Et William Booth déménage. Tout simplement, il loue une boutique, n'est-ce pas, dans laquelle il va tenir ses réunions. Et on va appeler cette boutique la boutique à salut. Et William Booth va reprendre ce principe. C'est un homme qui rejette la pompe, rejette les architectures complexes, etc., l'architecture religieuse. Il se rend compte que finalement, les ouvriers sont, les gens, les classes populaires sont rebutés par le style ecclésiastique, et que finalement, les ouvriers rentrent beaucoup plus facilement dans une salle de bistrot ou dans une boutique, n'est-ce pas ? Alors, il loue des salles de bistrot, il loue des boutiques, n'est-ce pas ? Et puis là, il prêche l'évangile et les gens viennent. Alors, il va garder ensuite ce principe quand il va lancer l'armée du salut et il va inciter ses officiers, comme il les appelle, à louer justement des salles de bistrot ou des boutiques. Et alors, le salutisme va se répandre dans ce qu'on appellera les boutiques à salut. Hein. William Booth est un homme qui a subi l'influence de Finney également. Il a eu accès aux écrits de Finney et il va adopter la vision du réveil qui est celle de Finney. C'est-à-dire un appel à la repentance, à la mise en ordre de la vie, à la consécration totale avec le Seigneur, à couper avec tout ce qui est le péché, avec tout ce qui est le monde, avec tout ce qui est le mal, sans avoir le moindre compromis, n'est-ce pas, par rapport aux choses qui sont que la parole de Dieu condamne. Et bien entendu, le Seigneur va approuver ce genre de ministère, ce genre de prédication. Et d'une certaine manière, William Booth va avoir le même succès que Finney, parce que finalement, il prêche un message qui est proche de lui. Maintenant, William Booth va avoir un côté sur lequel on peut être beaucoup plus réservé, n'est-ce pas ? Catherine Booth, nous l'avons dit tout à l'heure, est une femme, une maîtresse-femme, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas ? Et une femme qui, de tout temps, a voulu être à la pointe du combat pour les choses de Dieu, et notamment dans la prédication. Et pendant longtemps, Catherine Booth s'est demandé, après tout, pourquoi les femmes n'auraient pas le droit de prêcher. Et un beau jour, au cours d'une prédication de son mari, Catherine Booth se lève et puis demande à son mari, et voilà, le Seigneur me met à cœur de dire quelques mots. Alors, William est un petit peu surpris, et bon, vas-y. Et Catherine Booth se met à prêcher tout simplement. William Booth est tout à fait étonné, et puis il dit, elle a bien prêché en quelque sorte, j'aurais pas dit mieux. Et à partir de ce moment-là, Catherine Booth a prêché. C'est le début de la prédication de la femme. Et finalement, elle va convaincre son mari que la femme peut prêcher exactement comme un homme, que la femme est vraiment identique à l'homme dans ce domaine-là. Elle écrit même un livre qui s'appelle « Le ministère de la femme et son droit de prêcher l'Évangile ». Elle ne s'embarrasse pas trop de ce que dit la Bible, n'est-ce pas ? Et William Booth l'a fait prêcher à sa place le soir même de cette fameuse journée où elle l'a interrompu. C'est pas la chose la plus extraordinaire que l'effet de l'armée du salut. Et certain que c'est un des points sur lesquels on ne peut pas accompagner l'armée du salut jusqu'à ce jour. La prédication de la femme qui est en fait établie au sein de l'armée du salut depuis ce fameux jour où celle qui devait devenir la maréchale est intervenue. Et finalement, il est certain que Catherine Booth était une personne qui était très très autoritaire, qui à la fin de sa vie ne sera pas d'ailleurs une femme très facile, qui aura même un tempérament et un caractère assez désagréable d'après ceux qui l'ont approchée, n'est-ce pas ? Eh bien, a eu là une influence très très négative sur son mari. Maintenant, ceci dit, William Booth croit aussi, comme Wesley, à la possibilité d'une entière sanctification. Mais il affirme que le fait d'être entièrement sanctifié ne met pas à l'abri de la tentation. En 1859, il assiste à une conférence des prédicateurs à Manchester, puis en 61 à Liverpool, où on lui accorde la liberté de donner tout son temps à l'évangélisation. Mais Catherine trouve que la nouvelle connexion s'est en train de s'encrouter et elle pousse William à quitter ce mouvement. Et c'est ainsi que cette même année, William Booth quitte la nouvelle connexion et adhère à un nouveau mouvement qui s'appelle Home Mission Movement, le mouvement de la mission intérieure. Il démissionne donc le 18 juillet de la nouvelle connexion, en 18 juillet 1861, après avoir travaillé 7 ans à l'intérieur de la nouvelle connexion. William et Catherine partent pour la Cornouaille, où en 18 mois de ministère, 7000 personnes vont se convertir. Et finalement, là, petit à petit, il va y avoir une séparation qui va se faire avec le méthodisme, un petit peu comme le méthodisme s'est séparé de l'anglicanisme, et pour les mêmes raisons, parce que le méthodisme, qui était un mouvement de réveil sous Wesley, s'est assoupi, et que à partir du moment où un nouveau souffle de réveil le visite, au lieu d'adopter ce nouveau souffle de l'esprit, au lieu de se remettre en question, n'est-ce pas, il va lutter contre le mouvement de réveil que le Seigneur suscite en son sein. Alors que si les méthodistes avaient été vraiment spirituels, ils auraient canalisé l'ardeur de William Booth, mais sans briser son élan, bien sûr. Ils auraient peut-être pu rectifier aussi sur cette question de la prédication de la femme. Tandis que là, il y a eu un conflit frontal qui a éclaté, d'autant que William Booth et surtout Catherine n'étaient pas des gens à faire facilement des compromis. Pour eux, ils rompaient très facilement. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit et ce qui s'est passé. En 1863, William Booth loue un cirque, tout simplement. Et c'est là qu'il tient les réunions. Et puis, comme peut-être l'ambiance l'y incite un peu, je ne sais pas exactement, tout est-il qu'il va... c'est l'époque, vous savez, de l'indépendance de l'Italie. L'Italie, qui devient indépendante en 1860, ou du moins dans les années 60, je ne sais plus si c'est 60 exactement, sous la direction d'un certain Garibaldi. Et Garibaldi avait créé des mouvements de jeunesse qui s'appelaient les chemises rouges. Et ce sont ces gens-là qui ont amené l'Italie à l'indépendance. L'épopée de Garibaldi était quelque chose qui avait impressionné toute l'Europe et qui avait impressionné aussi William Booth, qui se souvenait qu'il avait été aussi en son temps révolutionnaire. Et William Booth avait rompu à fond avec l'idéologie révolutionnaire, marxiste ou autre, n'est-ce pas? Mais il était resté un peu révolutionnaire dans l'âme quand même. Et alors, l'exemple de Garibaldi l'avait inspiré. Ça veut dire, on ne voit pas très bien comment. Mais enfin, il avait donc aussi créé un uniforme, comme Garibaldi avait ses chemises rouges. Il avait créé un uniforme qu'il appelait l'uniforme Alléluia. Et de la même manière qu'il y avait les chemises rouges de Garibaldi, il avait créé ce qu'il appelait les bandes Alléluia. Alors, les bandes de jeunes qui allaient en uniforme, qui défilaient au pas cadencé, comme faisaient les troupes de Garibaldi, n'est-ce pas? Et puis qui, au lieu de chanter les chants révolutionnaires, chantaient des chants qui étaient finalement assez révolutionnaires aussi, mais où il était question de la Bible, de la guerre pour Jésus, etc. C'était assez militariste, c'était assez guerrier déjà dès ce moment-là, n'est-ce pas? Alors, ils défilaient, n'est-ce pas, avec des drapeaux, guerre au péché, guerre à l'alcool, guerre à la prostitution, etc. Et puis, alors, des grandes déclarations martiales qui se faisaient par ce moyen-là. Bon, enfin, c'était sa manière à lui de voir. En 1864, il se fixe à Leeds, qui est une ville au nord de Londres. À cette époque-là, les Booth ont 6 enfants. Et le 14 février 1869, pardon, Finney se rend à Londres. Et William Booth va donc écouter Finney. Il est extrêmement impressionné par le ministère de Finney. Nous sommes dans ces années où Victor Hugo écrit, vous savez, son fameux roman Les Misérables. La crise se prolonge en Angleterre aussi pour une autre raison, parce que dans le même temps, aux États-Unis, la guerre de sécession, cette terrible guerre, c'est pas, ensanglante le pays. Le commerce anglais, n'est-ce pas, qui était beaucoup dirigé vers les États-Unis, souffre énormément de cette guerre de sécession, aggravant justement la misère du prolétariat. Donc, c'est vraiment le creux de la vague. Les années 60, sur le plan de la misère du prolétariat britannique, c'est vraiment le creux de la vague. C'est aussi dans le même temps que naît, toujours en Angleterre et aux États-Unis, en 1857, le féminisme. C'est assez étonnant de voir qu'il y a une relation entre comment dirais-je, l'attitude de Catherine Booth, qui bouscule son mari, qui le fait taire, et puis qui prend sa place sans aucune vergogne, et puis la naissance du féminisme qui a lieu dans cette époque-là. Mais le féminisme, à cette période-là, n'est pas exactement le féminisme que nous connaissons aujourd'hui. Il a à sa tête une certaine Josepha Butler, qui part en croisade essentiellement contre la prostitution. Le féminisme est plutôt un mouvement de libération de la femme au départ, de la femme objet, de la femme exploitée, de la femme, donc la prostitution, enfin de tous les vices sexuels qui, évidemment, pour être peut-être moins voyants qu'ils ne le sont de nos jours, n'en étaient pas moins existants aussi à cette période-là. C'est aussi l'époque où les attaques de la science contre la foi se manifestent. En 1869, le transformisme, qui avait été initié par Darwin et qui est repris par un certain Huxley à cette période-là, est en plein essor. Et Huxley est le premier à se dire agnostique au nom de la science. En Angleterre, il n'y aura pas d'anticléricalisme à la française, mais plutôt une contestation de la foi, justement, au nom de la science. Et en même temps, en France aussi, c'est alimenté par Ernest Renan, qui en 1863 écrit La vie de Jésus, et qui est une attaque contre l'Évangile, n'est-ce pas? Bon, William Booth est au fait de ces mouvements, Et il va réagir très très vivement. Il est très vif, son tempérament. Et de la même manière qu'il avait déclaré la guerre au péché, la guerre à la prostitution, il déclare la guerre au transformisme, la guerre à ces pseudo-scientifiques, n'est-ce pas, qu'il attaque alors à fond dans ses prédications, dans les écrits aussi, parce qu'il distribue aussi des écrits, n'est-ce pas. Et William Booth considère que l'Angleterre est redevenue un pays de mission. Il écrit ceci, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes à la veille de voir une grande œuvre en Angleterre. L'East End, donc cette région de Londres où il travaille, et le Levant où il prendra naissance. Alors, il est toujours fasciné par l'East End, et son but, c'est de retourner là-bas. C'est, par exemple, pour vous montrer où on en était en Angleterre dans cette période-là, un livre de cuisine qui était vendu, par exemple, dans un magasin, écrivait à peu près ceci, que ce qui était immangeable, par exemple, quand on avait préparé le repas, n'est-ce pas, ce qui était immangeable, ben écoutez, il n'y a qu'à le donner aux pauvres. Voilà, si vous voulez, ce qui était la mentalité de l'Angleterre, quoi. Hein. Alors ça, c'était des choses qui faisaient bondir William Booth. William Booth ne supportait pas des choses comme ça, il supportait pas l'injustice, et il estimait que l'East End était la région d'Europe qui était la plus pauvre, la plus misérable, et qu'il n'y en avait aucune autre en Europe. Quand il voyait les enfants qui vivaient dans la rue, les criminels, qui vivaient mieux que les ouvriers honnêtes, en quelque sorte. Les dirigeants qui étaient absolument, qui ne se souciaient absolument pas de ces pauvres gens, alors ils disaient, ben ça c'est le terreau, n'est-ce pas, sur lequel le Seigneur va pouvoir faire une œuvre magnifique, n'est-ce pas, et de cette misère-là, eh bien, va sortir une grande œuvre, un grand réveil. Alors, en 1861, les dirigeants de sa mission acceptent de lui donner la direction de tout ce qui va se faire dans l'East End, de lui donner l'East End comme terrain de mission. D'abord, à titre temporaire, il est envoyé là-bas pour remplacer un pasteur malade. Et bon, ça l'enthousiasme pas d'aller remplacer ce pasteur malade, parce qu'il sait que c'est pas quelqu'un avec lequel il a tellement d'atomes crochus. Mais bon, par devoir, il y va. Et il ne savait pas que c'était là que le Seigneur l'appelait, que ce serait le tournant de son existence. Et il y avait une date qui devait rester, une date clé dans sa vie, dans son ministère. C'était le dimanche 2 juillet 1865, où il avait commencé justement son ministère dans l'East End. Alors, bon, il avait fallu trouver un lieu pour prêcher l'évangile. Finalement, il avait prospecté un peu partout, cherché une salle. Personne ne voulait lui prêter de salle, lui en louer, c'est pas bon. Finalement, il avait trouvé. Alors, il cherchait un terrain pour planter une tente. Pareil, personne ne veut lui prêter de terrain, personne ne veut lui louer de terrain. Et finalement, il trouve un vieux cimetière. Eh ben, ça le dérange pas. Il installe sa tente dans le cimetière, comme ça, but en blanc. Ah oui, William Booth, c'était comme ça. Pour lui, il taillait pas dans la dentelle. Et il prêche l'évangile. Il y a à peu près 200 à 300 personnes qui assistent, qui commence à rigoler, qui commence à le railler, qui commence à le bombarder de tomates, etc. Et notamment un buveur qui s'appelle Peter Mark, qui est bien connu de tout le monde comme étant un type épouvantable, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, William Booth, lui, il est habitué, ça le... et puis il fait un appel au bout de sa prédication. Et ce Peter Mark est touché par la grâce de Dieu. Il se lève et il est le premier à se convertir. Et il se convertit et ensuite il se retourne vers ses anciens compagnons et dit maintenant, vous savez, le prédicateur, il est mon protégé. Le premier qui bronche, le premier qui, eh bien, il aura affaire à moi. Alors comme Peter Mark est un gars qui roule un peu les mécaniques et tout le monde a un peu peur, silence de mort, et tous les soirs, donc dans ce cimetière, William Booth continue à prêcher l'évangile dans un silence respectueux, avec sous la garde vigilante de Peter Mark qui est là, n'est-ce pas, qui veille au maintien de l'ordre, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Booth crée l'Association chrétienne pour le réveil. Au bout d'un an, eh bien, il n'a pas ce n'est pas encore le grand réveil auquel il rêve. Il a 60 personnes qui se sont converties en tout et pour tout. On s'effarouche quand même de ces méthodes d'évangélisation qu'on juge un peu trop agressives. Et il sent qu'il faut qu'il pénètre plus profondément dans ce milieu-là. Alors, il va finalement trouver un local. Déménager du cimetière, c'est quand même peut-être pas l'endroit le plus approprié pour prêcher l'évangile. Et puis, il n'a pas d'argent. Il le fait par la foi. On lui demande une certaine somme tous les mois, puis il n'a pas d'argent. Mais il y va par la foi. Et là, il va connaître le miracle pendant tout un temps. Toutes les semaines, il trouve dans le tronc un louis d'or. Imaginez un louis d'or dans l'East End de Londres. Là où les gens n'ont même pas un sou pour s'acheter de quoi manger, pour acheter un morceau de pain. Eh bien, le miracle va être constant, c'est pas pendant des semaines et des semaines. Il a jamais su d'où venait ce louis d'or, mais quelqu'un a déposé un louis d'or dans le tronc. C'est pas, à moins que ce soit un ange, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'il a pu faire face à toutes les dépenses occasionnées par ses locaux, par son local. Puis là, il en loue d'autres, puisqu'il a un peu d'argent, grâce à ce louis d'or quand même. Et il va finir par créer différents endroits d'évangélisation, différents postes d'évangélisation dans l'East End. En 1867, une épidémie de choléra vient ajouter à la misère de cette population. Et William Booth va se dépenser sans compter pour venir en aide aux malades. Il va les visiter, il secourt les familles qui sont endeuillées, etc. Il a à cette époque-là 6 lieux de réunion dans l'East End. Il a avec lui des ouvriers qui se sont convertis et qui deviennent des collaborateurs, et qui vont vers leurs anciens ouvriers, comme le fameux Peter Mark dont nous avons parlé tout à l'heure, de telle sorte que petit à petit, les auditoires grandissent. Et il appelle maintenant son mouvement East End Christian Mission, la mission chrétienne de l'East End. Au bout de 24 mois, c'est une œuvre qui est puissamment implantée dans l'East End. Et en 18 mois, il va avoir 1000 convertis, 300 collaborateurs occasionnels et 10 collaborateurs à plein temps. William Booth est un homme qui n'a absolument pas d'esprit sectaire. Pour lui, il ne fait pas une œuvre pour un mouvement particulier. Et il continue dans la tradition wesleyenne les réunions en plein air, été comme hiver, ça le dérange pas, c'est pas dans le froid, dans la neige, dans la pluie, c'est pas. C'est un homme endurci à toutes les intempéries, et il précède justement ces réunions de ces fameuses processions à la Garibaldi, processions chantantes, n'est-ce pas? Il veut surtout montrer que l'évangile, c'est pas du tout ce que les ouvriers pensent, n'est-ce pas, cette espèce de piété austère, froide, sans joie, n'est-ce pas. Au contraire, il veut montrer que l'évangile, c'est la joie. Alors, les bandes Alléluia déferlent dans les rues de Londres en chantant des chants joyeux, extériorisant la joie, jouant des instruments de musique. Et de là va venir, vous savez, la tradition qui existe encore dans le mouvement salutiste des fanfares, n'est-ce pas, des fanfares défilant au pas qu'à danser. Ça commence là. C'est pas, ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est pas, c'est un des particularismes de l'armée du salut. Maintenant, William Booth se heurte à un problème. Un certain nombre de gens se convertissent, mais ensuite retournent dans la nature. Alors le problème se pose pour lui, comment garder les convertis? Et il se rend compte que la chose la plus difficile pour eux, c'est qu'ils renoncent au péché, qu'ils réparent leurs torts, qu'ils payent leurs dettes, qu'ils restituent, etc. Et bon, dans un premier temps, il les amène à ça. Puis ensuite, il essaie de les envoyer dans les églises existantes, c'est l'échec total. Il n'y a absolument pas d'osmose qui se fait entre ces gens et puis finalement les gens des églises qui sont souvent des églises bourgeoises et qui sont d'un autre milieu social. Alors ils décident que bon, ben, il n'y a pas de problème, il faut que eux-mêmes, le mouvement, prenne soin des nouveaux convertis. Ils se voulaient essentiellement un mouvement d'évangélisation et il est obligé, sans l'avoir cherché, à créer en quelque sorte une structure d'église. Dans ces années-là, donc, William Booth se penche aussi sur le problème social. Et à cette époque-là, c'est très intéressant de noter que l'Église anglicane révise son jugement sur William Booth et finalement lui accorde sa bénédiction, si on peut dire, et notamment note qu'il n'y a pas chez lui de sectarisme et qu'il fait une œuvre sociale que eux, les anglicans, sont incapables de faire. Et finalement, William Booth va avoir l'appui justement de l'Église d'Angleterre officielle. Alors il continue plus que jamais ce qu'il appelle les réunions de louanges. Alors, c'est sûr que c'est très coloré, les réunions de l'Armée du Salut à cette époque-là, n'est-ce pas? On chante, on tape dans les mains, des chants absolument entraînants, dans les cafés, dans. Alors, y a de tout, et même des chansonnettes comiques, ils virent un peu dans le style un petit peu qu'on déplore aujourd'hui. Et puis alors, surtout, il y a des réunions qui durent extrêmement longtemps, parfois 2, 3 heures, des réunions d'évangélisation, c'est inimaginable aujourd'hui. Et puis alors, il a aussi, pour ses collaborateurs, des réunions spéciales, des nuits de prière. Il est conscient qu'il y a un combat contre les puissances des ténèbres et qu'il faut lutter dans la prière. Or, ce qui est très intéressant, c'est de noter que dans ces réunions de prière en particulier, il y a vraiment une puissance du Saint-Esprit très grande. Bon, déjà, les méthodistes mettaient l'accent sur l'action du Saint-Esprit. William Booth le fait plus encore. Et lorsque viendra le mouvement de Pentecôte, un petit peu plus tard, dans presque un siècle après, les anciens qui ont connu les réunions d'armée du salut, les réunions de réveil, on appelait ça les réunions de réveil, et qui se retrouveront dans les réunions pentecôtistes, diront eh bien qu'ils revivaient la même chose, ils revivaient les mêmes expériences, et ce que les pentecôtistes appelaient baptême dans le Saint-Esprit, eh bien les salutistes le connaissaient sans avoir la théologie de la chose, mais qu'il y avait dans les réunions salutistes d'authentiques et véritables baptêmes dans le Saint-Esprit. Certains que, nonobstant les excès de William Booth dans différents domaines, notamment dans le domaine de la prédication de la femme, il y avait une bénédiction de Dieu sur ce mouvement parce que le Seigneur voyait son cœur. Et c'est dans ces années-là qu'il rencontre Thomas Bernardo, qui est un étudiant en médecine, qui est un homme de cœur et qui est allé chercher Ambus. Et il aura 60 000 convertis pendant son existence, à lui tout seul. Il aura amené 60 personnes, 60 000 personnes au salut. Et William Booth se veut le pasteur de tous ceux qui sont sans pasteur. C'est son slogan, n'est-ce pas? Il dit, je suis le pasteur de tous ceux qui sont sans pasteur. Alors, les prostituées, les buveurs, les bandits, les gens les plus bas tombés, n'est-ce pas? C'est vers eux qu'il va, c'est vers eux qu'il va en priorité. Et il s'attaque à ces deux principaux vices qui sont ceux de l'East End londonien à cette période-là, l'alcoolisme et la prostitution. C'est les deux grands fléaux qui frappent les ouvriers de cette période-là. Et c'est ainsi qu'il va créer des sociétés de relèvement des buveurs. Il va créer des sociétés de relèvement des prostituées, notamment avec des femmes et des jeunes filles converties qui vont s'occuper de ces pauvres femmes-là. Et justement, pour les éviter de retomber dans leurs vices, il va créer des secours matériels pour venir en aide à ces femmes qui souvent se prostituent plus par nécessité que par vice, souvent des mères de famille qui se retrouvent seules, des filles mères, des gens comme ça qui n'ont rien à donner à manger à leur enfant et qui pour pouvoir subsister se prostituent. Alors, pour qu'elles ne retombent pas dans leur vice, il faut les secourir matériellement. Et c'est ainsi que William Booth, avec l'aide de ses collaborateurs, va mettre en place toute une infrastructure d'aide sociale, justement, d'accueil, par exemple, d'abord pour ces femmes qui n'ont pas de logis, beaucoup d'entre elles n'ont pas de logis. Alors, bon, il va créer des centres d'accueil pour elles, pour leurs enfants, pour ensuite leur donner à manger, etc., etc. Et alors, il y a des espèces de petites communautés qui se créent comme ça, par exemple, il donne trois déjeuners gratuits, trois séances de déjeuner gratuits par jour. Et puis jusqu'à 1 000 déjeuners par jour qui sont donnés comme ça gratuitement dans ces centres-là. Et à la fin du repas, évidemment, il prêche l'évangile. Il a l'habitude de dire ceci, les pauvres n'ont que le bistrot pour eux. Alors, il leur ouvre des centres où ils peuvent venir. Par exemple, il organise des Noëls pour les enfants, des Noëls pour les pauvres, etc. Et en octobre 1869, il lance un magazine qui s'appelle L'évangéliste de l'East londonien. Bon, il est certain que les Booths Je disais tout à l'heure, ne taille pas dans la dentelle, et dans ses écrits, c'est pareil, c'est de la dynamite à l'état pur. Il attaque à fond, c'est pareil, c'est des appels guerriers, n'est-ce pas, à intervenir contre tout ce qui est le vice, etc. Bon, alors, c'est parfois un peu. Ça crée des états d'âme chez les gens qui reçoivent ça, les gens de la gentuité qui reçoivent ça, les bons chrétiens traditionnels, ça les dérange un peu. Mais finalement, même les catholiques sont gagnés parce qu'ils disent que finalement, ils voient dans William Booth un nouveau saint François d'Assise. Et ils retrouvent un petit peu l'esprit franciscain du XIIIe siècle qui est appliqué à la révolution industrielle. C'est très intéressant cette analyse des catholiques anglais qui, à cette époque-là, donc, vont apporter leur appui à William Booth pour cette région-là. Maintenant, William Booth est en même temps un patriote. C'est, il est anglais jusqu'au bout des ongles. L'Angleterre est choisie par Dieu, etc. Pour être la patrie du réveil. Et finalement, son militarisme se ressent un petit peu aussi. N'est-ce pas, alors, son cri de guerre, c'est l'Angleterre pour Jésus. La belle Angleterre pour Jésus. N'est-ce pas, alors, il fait des grands titres, des grands articles à partir de ce thème-là. Où il fait preuve d'un nationalisme aussi très, très important. Alors, en 1870, il crée les soupes populaires, qui sont encore un des très caractéristiques, d'ailleurs, de l'armée du salut. Et puis, la même année, il crée des magasins d'alimentation à bon marché, où il vend des marchandises au prix coûtant, sans prendre de bénéfices, pour les mettre à la portée des pauvres. Il a beaucoup d'idées, mais là, bon... ne réussit pas toujours, et ça, c'est un échec total. Il doit les fermer après quelques années sans que ça ait jamais marché véritablement. Alors, en 1870 aussi, il y a un tournant dans son mouvement, parce que William Booth se pose au congrès de 1870, où il rassemble tous ses collaborateurs, la question, bien, comment doit fonctionner l'autorité dans le nouveau mouvement qui petit à petit se crée, sans qu'il l'ait cherché, mais qui, par la force des choses, se détache des églises officielles et des églises établies. Alors, on élabore, en cette fameuse conférence de 1870, une constitution d'inspiration méthodiste avec des femmes dans le comité, ce qui est évidemment aussi une révolution. À cause juste, et il y a beaucoup des critiques d'ailleurs qui sont adressées à l'armée du salut, enfin c'est pas encore l'armée du salut à cette époque-là, au mouvement de l'évangélisation de l'East End, c'est encore comme ça que ça s'appelle, beaucoup de critiques lui sont adressées à cause justement du ministère de la femme, et ça évidemment, là il était en porte-à-faux, c'est sûr. Beaucoup de riches aussi vont soutenir la mission parce qu'ils ont reconnu une œuvre de Dieu, puis en même temps parce que ils sont un peu culpabilisés. C'est-à-dire que William Booth y emploie aussi. Il faut dire que comme lui, il va pas avec le dos de la cuillère dans ses écrits. Il attaque. Comment vous les riches, il prend les textes de Jacques, n'est-ce pas? Comment vous pouvez être tranquille chez vous alors que voilà, les enfants sont dans la rue, etc. Alors ça finit par porter. Et des chrétiens aisés se sentent effectivement mal à l'aise vis-à-vis de toute cette misère sur laquelle ils avaient préféré fermer les yeux jusque maintenant, et ne se sentent pas, tant pas eux-mêmes à même d'aller dans les bas-fonds de Londres, ils vont soutenir à fond l'œuvre de William Booth. Si bien qu'à partir de 1870, l'œuvre n'aura plus de problèmes financiers. Il va y avoir spontanément, c'est pas tout un courant financier qui va venir vers justement le nouveau mouvement pour aider ainsi l'aide aux plus défavorisés. À cette époque-là, les Booth ont 31 ans. Et ils vont créer aussi des réunions d'enfants. Et puis une espèce de scoutisme aussi, de parascoutisme. Il appelle ça les petits pionniers. C'est un scoutisme avant William Booth, Baden Powell, oui. Mais enfin, l'inspirateur, encore une fois, c'est Garibaldi. C'est ça qui est amusant, n'est-ce pas? C'est que le modèle pour William Booth, c'est vraiment Garibaldi, quoi. Alors, Garibaldi avait aussi des mouvements de jeunesse de ce moment-là. Et alors, il se lance à fond dans ce truc-là, puis il voit que les enfants, ils aiment ça, quoi. Alors, ça marche. William Booth, c'est un homme très exigeant pour lui-même, très exigeant pour ses collaborateurs. Il exige une vie très, très sobre de la part de ses collaborateurs. pas de théâtre, attention aux lectures, il a une liste de journaux à proscrire absolument, pas d'élégance dans la toilette, pas d'alcool, pas de cigarettes, il croit vraiment à la simplicité. C'est aussi un homme très soumis, il enseigne de se soumettre aux magistrats. Souvent, ils auront des problèmes avec la police, hein, parce que, bien entendu, surtout les cabaretiers, qui ne peuvent pas sentir, évidemment, William Booth, parce que William Booth le rend bien. Alors, dès que les bandes à Alléluia viennent chanter sous leurs fenêtres, guerre à l'alcool, ils appellent la police en disant qu'il y a une émeute devant chez eux, etc. Et souvent, les bandes Alléluia ont maille à partir avec la police. Et William Booth donne l'ordre à ce moment-là de ne pas résister et de s'expliquer gentiment, et sinon de se laisser emmener au poste, ce qui arrive de temps en temps d'ailleurs, jusqu'au moment où finalement la police se rend compte qu'ils font un travail extraordinaire. Et la police se retourne et la police va collaborer avec les collaborateurs de William Booth. Parfois, évidemment, c'est pas toujours facile, et les évangélistes sont molestés, sont jetés à terre, les tentes sont détruites, une femme est blessée parfois, on les accuse d'être des nuisances, et parfois l'opposition dégénère en émeute, et cette fois-ci, les autorités, la police intervient, non plus, n'est-ce pas, pour faire taire les salutistes, mais pour les protéger, et pour les délivrer parfois de certaines situations particulièrement difficiles. William Booth est un courage anglais, très flegmatique, n'est-ce pas ? Il ne cède jamais. C'est pas un violent, c'est pas quelqu'un qui va exploser, mais par contre, il a le flegme britannique, n'est-ce pas ? Il reste imperturbable sous les injures, sous les coups, n'est-ce pas ? Il reste absolument inflexible, n'est-ce pas ? C'est un roc, n'est-ce pas ? Beaucoup de ses collaborateurs font de même. Et souvent, ça porte énormément. Alors, bien entendu, il est parfois aussi attaqué dans les journaux. On fait des allusions perfides, notamment à la source de ses revenus. Il ferait du racket. Il y a des articles calomniateurs, d'autres qui sont venimeux, etc. William Booth supporte. Il ne discute jamais. Dans ces choses-là, il refuse la polémique, il refuse la controverse, et il demande à ses collaborateurs de faire de même. Alors, bien sûr, il y aura toujours toute sa vie des adversaires, ça c'est absolument impossible autrement. Mais il passe outre. Dans le fond, quand on est en guerre, estime William Booth, pour lui c'est son idée, il est en guerre contre le péché, en guerre contre le mal, contre Satan, et automatiquement, il faut s'attendre à des pertes, il faut s'attendre à des coups, il faut être prêt à prendre des coups, et il est prêt, il n'y a pas de problème, et ses collaborateurs aussi doivent faire de même. Alors, en 1870, il est tellement surmené qu'il finit par tomber malade. Il continue quand même à travailler. Il rechute et finalement, sa femme le remplace. Et c'est alors qu'il y a une scission dans la mission. Un ancien collaborateur de Booth décide de faire une œuvre similaire. Et il y a une scission entre eux, n'est-ce pas ? Bon, ils sont assez entiers l'un comme l'autre, tant et si bien que c'est pas toujours très facile. William Booth continue à évangéliser d'autres villes, dont la ville de Portsmouth, qui est un port important, et des gitans se convertissent. Là aussi, il y a un mouvement parmi les gitans, et dès 1870, parmi les prédicateurs du mouvement, il y a des prédicateurs gitans. Puis ensuite, il s'en prend à des catégories bien précises de gens, les cheminots, les terrassiers. Et puis ensuite, carrément, il descend à Soho, qui est le Pigalle de Londres, où a vécu Karl Marx d'ailleurs. Et là, il attaque à bras-le-corps le quartier avec toujours la même fougue. L'œuvre progresse après un temps de stagnation dans ce fameux quartier, finalement. Et William Booth, l'année suivante, lance ce qu'il appelle le plan national numéro 1. Alors là, c'est l'attaque. Il part à l'attaque du pays, n'est-ce pas ? C'est son mot. Toujours dans le vocabulaire militaire, n'est-ce pas ? L'offensive, toujours l'offensive. Alors, le plan numéro 1, c'est un plan d'attaque. Alors, bon, il faut avoir toujours une bonne humeur quand on est dans les rues, montrer qu'on est joyeux, que l'évangile, c'est quelque chose de joyeux. Et l'allure devient de plus en plus martiale, les chants. Et alors, William Booth dit « L'agressivité est un devoir sacré ». Alors, bien entendu, il ajoute « Quand on est agressif, il faut s'attendre à des résistances, sans doute. » Alors, malheureusement, en 1873, le plan d'attaque numéro un est un peu mis à mal par la crise économique. La crise économique qui s'aggrave et qui s'étend dans le pays. Il y a une stagnation du commerce, des affaires, chômage à nouveau. Les sources de revenus aussi donc en pâtissent. Les riches sont un petit peu moins riches et donnent moins. Du côté des ouvriers, ça se ressent aussi. Il y a une grande amertume qui monte, effectivement, de plus en plus de résistance à l'agressivité du plan d'attaque numéro un. En 1875, William Booth fait une crise d'angine de poitrine. Non, c'est sa femme, pardon, Catherine Booth. William Booth en profite pour la mettre un peu sur la touche. Je pense que de temps en temps, il devait trouver qu'elle était un peu embarrassante. Et il déclare que maintenant, la mission ne sera plus dirigée que par une seule personne à la manière militaire. Et il se bombarde superintendant général. Il a le droit de veto sur toutes les décisions de la conférence annuelle. Il déclare qu'il nommera lui-même son successeur. Donc, on va vers vraiment une militarisation du mouvement à fond. À cette époque-là, les enfants de William Booth se lèvent pour le service de Dieu. Et c'est alors que, cette même année 1873, un évangéliste déclare: Voici l'armée, Alléluia! Et c'est le trait de génie, soudain, William Booth va appeler son mouvement l'armée du salut. C'est là que naît cette déclaration. Finalement, William Booth cite au congrès de 1876, il revient sur cette question de l'autorité. Entre-temps, sa femme a été rétablie, n'est-ce pas? Et il cite Spurgeon qui aurait dit un jour, certainement dans un moment, sur une semi-plaisanterie, on connaît l'humour de Spurgeon, il aurait dit ceci: J'aime un comité composé de trois membres, dont deux sont au lit. Et se basant sur cette parole de Spurgeon, William Booth fait le coup d'État et déclare qu'il est maintenant le seul patron et que tout le monde doit lui obéir, droit et à l'œil. Après tout, une armée, il y a un général en chef, et il est général en chef. Finalement, c'est une espèce de structure catholique où il y a un pape absolu, ce bombard pape absolu. Bon, c'est assez discutable, évidemment, mais enfin, c'est comme ça que va naître l'armée du salut. On verra si vous voulez la suite la prochaine fois. Voilà. Si vous avez des questions à poser,